Vous êtes familier de l'univers du disque, donc ce qui explique que peut-être que vous aviez l'énergie et le savoir-faire pour faire ce disque Moving.
Oui, c'est-à-dire que j'ai passé quand même énormément de temps à faire des enregistrements, à travailler en studio, à prendre les outils informatiques et même analogiques, puisque certains de mes premiers disques ont été enregistrés sur 16 pistes magnétiques. Donc je connais plutôt pas mal ces outils-là. Et puis l'expérience aussi à l'IRCAM m'a permis d'approfondir mes connaissances aussi dans ce domaine-là. Cela dit, il faut dire que pour Moving, j'ai été extrêmement aidé. J'ai eu la chance de pouvoir réaliser ce disque dans des conditions extrêmement luxueuses. Et ça, grâce à Radio France qui a donc produit le disque. Et donc, nous avons eu accès au studio d'enregistrement de la radio, à l'expertise d'Arnaud Moral, qui est donc un directeur artistique, une qualité, enfin, d'une oreille absolument infaillible. J'aurais difficilement pu imaginer des conditions meilleures pour réaliser ce projet.
Et alors, comment vous avez fait ce disque, le choix que vous avez fait? Parce que quand je lisais la brochure, j'ai vu que vous aviez élagué votre catalogue. En gros, on est entre des quelles années?
Ben, la pièce la plus ancienne remonte à 2003 et la plus récente date de 2015. Oui, alors effectivement, j'ai supprimé beaucoup de pièces. Quand je commence un projet, je suis toujours au départ en train de tâtonner un peu dans le vide. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Et c'est ma façon préférée de travailler. Je ne pourrais jamais au départ me décider de la forme d'une pièce, me décider de tous les paramètres du projet avant même d'avoir commencé. Ça, pour moi, ce serait impossible. Donc mon plus grand plaisir dans la composition, c'est les surprises, c'est le fait de découvrir la pièce au fur et à mesure que je la compose. Ma façon de composer est aussi extrêmement liée à la matière sonore dont je dépends dans chaque projet, c'est-à-dire l'instrument. Pour des raisons qui là aussi paraissent inexplicables, j'ai une attirance pour certains instruments plus que d'autres. Parfois, j'accepte de faire un projet et il se trouve que l'instrumentarium ne me convient pas tout à fait, ou j'arrive pas à trouver la clé de voûte qui me permettra de la mettre en valeur telle que je souhaiterais le faire. Cela dit, ça m'arrive de moins en moins fréquemment, puisque j'ai maintenant aujourd'hui une certaine expérience que je n'avais pas il y a 10 ans, il y a 10-15 ans, c'est sûr. Dans mes premières pièces, c'est sûr qu'il y en a un certain nombre qui n'ont pas survécu à ce tri assez sans pitié que j'ai fait. Alors les morceaux sur le disque ont été choisis parce que il y avait aussi des contraintes pratiques liées à ce projet. J'ai travaillé avec l'ensemble Proton de Berne, qui a un effectif entre 7 et 10 musiciens selon le projet. Mais il y a un certain noyau quand même dans l'ensemble qui est là depuis la formation de ce groupe. Et donc il fallait quand même que j'oriente le projet autour de ces musiciens-là. C'est la raison pour laquelle, par exemple, une pièce très ancienne, PLP pour lupophone et de piano, figure sur ce disque. En fait, j'avais fait la connaissance de Martin Bliegenstorfer, le oboïste de l'ensemble, en 2010, lorsqu'il m'a envoyé un email en me demandant plus de précisions sur cette pièce qui n'avait jamais été créée. Ça a dû faire 4 ou 5 ans qu'on travaillait là-dessus avec lui. Et donc, ça m'avait semblé tout à fait logique qu'on mette cette pièce sur les disques, même si il est vrai que stylistiquement, elle est assez loin de ce que je fais aujourd'hui.
Alors, ce qui m'a intéressé, justement, parce que vous avez parlé du hautbois, qu'est-ce qui vous attire?
Eh bien, quand j'avais 17 à 18 ans, je me suis procuré le disque de Heinz Holliger jouant les 3 concertos de Bach. C'est un disque superbe. Je l'avais entendu, je l'avais écouté sans exagérer des centaines de fois. Et la sonorité du hautbois sur ce disque m'avait énormément fasciné. Surtout le concerto pour hautbois d'amour en la majeur, qui est une pièce magistrale, une pièce parmi mes préférées. Bon, il y a ça, donc j'ai été très tôt complètement fasciné par le timbre de cet instrument. Il y a aussi que je suis moi-même hautboïste. Donc j'ai une formation de hautboïste. J'ai été hautboïste pendant plus de 10 ans. Je me suis produit en tant que soliste dans l'orchestre, en musicien de musique de chambre aussi. Et donc je connais intimement cet instrument. Je connais très bien ses possibilités techniques. Je connais tous les registres, les possibilités d'articulation et ainsi de suite. Donc je me sens très très proche du hautbois.
Alors en plus, vous n'avez pas choisi les colophones, j'ai vu ça, vous avez choisi un autre instrument, vous pouvez me dire lequel, et pourquoi ?
C'était pas exactement un choix. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en 2003, j'ai donc composé cette pièce que j'avais évoquée tout à l'heure, PLP, qui était initialement écrite pour Ekelphone et de piano. Alors le Ekelphone, pour ceux qui ne connaissent pas cet instrument, est un instrument à hanche double qui a été inventé vers le début du XXe siècle par la firme Eckel, qui est basée en Allemagne. Et en fait, Wagner, vers la fin de sa vie, avait contacté Eckel en disant il y a quelque chose qui manque dans l'orchestre, il manque un instrument qui se situerait entre le grave du cor anglais et le grave du basson. Et donc Eckel s'est dit oui, effectivement, il a raison, il s'est mis à travailler et 25 ans plus tard il a produit de Ekelphone. Bon, il a mis un certain temps à le faire, malheureusement Wagner est décédé entre temps. Quand le Ekelphone est sorti en 1905, il était déjà, hélas, un peu trop tard pour que les compositeurs du romantisme tardif s'y intéressent.
Richard Strauss.
Il y a Richard Strauss, effectivement, il y a Salomé, il y a Electra. Il y a aussi deux œuvres de Varèse, Amérique et Arcane, où il y a des parties de Ekelphone. Bon, il faut dire que si on ne connaît pas très bien la partition de ces œuvres, il est très facile de louper la présence du Ekelphone dans l'orchestration, puisque je suis persuadé que dans les deux cas, pour Strauss aussi bien que pour Varèse, ils ont écrit pour cet instrument, sachant qu'il était rare, sachant qu'il était souvent difficile à trouver. Et donc, bon, cela dit, il y a quelques petits solos qu'on entend quand même dans Salomé de Strauss, mais la plupart du temps, l'instrument se mélange pas mal dans la pâte orchestrale et on n'entend pas trop.
Et là, l'instrument que vous avez choisi est beaucoup plus récent, en fait. Et quelle est sa caractéristique?
Alors, le Ekelphone a toujours été un instrument quelque peu problématique, puisque, bon, déjà, il est très très cher. La maison Ekel en a fait très peu. Il y en a peut-être 50 ou 60 dans le monde qui fonctionnent à peu près bien, d'autres étant dans des musées. Et à part ça, c'est un instrument qui, d'un point de vue mécanique, est resté un peu simple, il faut dire. Tandis que le lupophone, qui est un instrument qui a été donc inventé, si je ne me trompe pas, vers 2006-2007, soit un siècle après le Ekelphone, est un instrument qui déjà mécaniquement est beaucoup plus facile à jouer et qui a un registre beaucoup plus étendu, puisqu'il descend jusqu'au fa grave, c'est-à-dire jusqu'au bas de la clé de fa, et qui peut monter extrêmement haut également grâce à une troisième clé d'octave. Donc c'est un instrument qui possède à la fois une perfection technique absolue, un très grand registre, une très grande flexibilité au niveau du son également. Et lorsque Martin Blickenstorfer m'a contacté à propos de cette pièce, il m'a dit bah, je veux absolument la créer, mais je n'ai pas de Ekelphone, je joue un lupophone. Donc je me suis dit très bien. En fait, les sonorités des deux instruments s'approchent pas mal. Il n'y a pas une énorme différence au niveau de la sonorité. Bon, on peut dire que le Ekelphone est un tout petit peu plus ouvert, un tout petit peu plus velouté au niveau du timbre. Mais cela dit, les deux sont vraiment très proches. Donc j'ai fait une transcription pour l'upophone qui d'ailleurs ne m'avait pas demandé un énorme effort puisque les tessitures des deux instruments sont assez proches.
Et il y a aussi un concerto de piano. Peut-on dire que c'est un concerto de piano? Puisque à propos du concert de la semaine dernière, donc quel était ce concert de la semaine dernière vu qu'on doit être 2 ans après?
J'ai toujours beaucoup de mal avec les titres. Le fait de devoir choisir un titre me paraît souvent assez besogneux. C'est-à-dire que on n'est plus du tout dans l'époque de Mozart où on pouvait appeler une pièce, je sais pas, sonate numéro 13 ou quatuor à cordes numéro 11. Enfin, il faut qu'on trouve des titres qui attirent l'attention de l'auditeur. Et très souvent, on tombe dans quelque chose de descriptif. C'est-à-dire les vagues de l'océan entendues le soir. Ou des titres un peu descriptifs de cet ordre-là, qui pour moi personnellement m'intéresse assez peu, parce que je trouve que dès qu'on évoque une image spécifique, une image précise, une image visuelle, moi personnellement je m'endors, j'ai presque pas envie d'écouter la pièce. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des titres intéressants, on va dire, quitte à ce qui paraisse énigmatique. Donc les titres de cette pièce, en fait, bon, c'est une histoire un peu marrante, en fait, comme ça arrive assez souvent, on m'avait demandé les notes de programme et les titres de l'œuvre extrêmement tôt, si tôt en fait que je n'avais même pas commencé à l'écrire, donc je ne savais absolument pas du tout ce que j'allais faire pour cette pièce. Et l'organisation en question a beaucoup insisté. Ils ont dit, non, il nous faut impérativement les titres, très rapidement. Et donc, j'ai inventé un truc. Je serais parfaitement incapable de vous dire quel est le sens de ce titre. Je ne sais pas moi-même. C'était une intuition. On n'est pas censé procéder de cette façon-là, proposant des titres qui, a priori, n'ont pas de sens. Mais je me suis dit, ça pourrait être intéressant, la mesure où ça pointe vers autre chose que la pièce en question. Et j'aime beaucoup ce genre de paradoxe.
Et alors, quand vous avez conçu cette œuvre, vous aviez, au moment où vous êtes décidé à le faire, vous êtes parti comment, d'un accord, d'un geste instrumental, d'un musicien, quel a été l'élément un peu déclencheur, indépendamment de la commande, puisque la commande, c'est vous l'avez reçue, puis ensuite il y a un délai qui s'est passé, puisque le titre vient là, pour arriver à l'œuvre elle-même, ou du moins à la commencer.
Je dirais que le point de départ initial est toujours conditionné, que je le voie ou pas, par mes propres limites en tant que compositeur, par l'extrême difficulté que j'éprouve parfois à mettre les notes sur le papier, tout simplement. Ça, c'est une condition permanente. La création musicale n'a rien de simple aujourd'hui, ni rien de facile. J'ai souvent l'impression de devoir prendre énormément de temps pour connaître le matériau que je vais exploiter dans la pièce. Et dans le cas de cette pièce précisément, je me suis décidé très tôt de faire une sorte de concerto pour piano et petit ensemble. Donc je savais que mon écriture allait être basée autour de cet instrument. Et j'avais une image sonore, si je puis dire, qui m'avait beaucoup travaillé, qui vient de l'écriture pianistique, l'écriture pour clavier de Bach. J'ai toujours été extrêmement fasciné par la façon dont Bach peut prendre une voix qui peut paraître assez simple, une voix d'accompagnement, une voix secondaire par exemple, comme dans l'aria de Variation Goldberg. Et à un moment donné, il prend cette voix et il la scinde en deux parties. C'est assez étrange, c'est-à-dire que certaines des notes dans cette voix vont être entretenues pendant que la voix continue, ce qui crée une sorte de polyphonie virtuelle. Donc il y a une sorte d'amalgamation extrêmement forte des deux dimensions, de la verticalité et de l'horizontalité dans cette musique. Et en travaillant sur cette pièce, je voulais tenter de trouver une sorte de processus un peu similaire, mais au sein de mon propre projet musical. C'est une pièce qui travaille énormément sur la résonance, des notes qui continuent à résonner et qui sont ensuite reprises par le reste de l'ensemble. Il y a une sorte de tentative d'orchestration de la résonance du piano dans cette pièce.